Howard Phillips Lovecraft. Le Molosse. Traduit par Vincent Delépine. À mes oreilles torturées résonne sans fin un cauchemar bourdonnant et claquant, et un aboiement lointain, pareil à celui d'un gigantesque molosse. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est même pas, je le crains, la folie, car il s'est passé trop de choses pour que je puisse accepter ces doutes miséricordieux. Saint John n'est plus qu'un corps mutilé, et moi seul je sais pourquoi. Et cette connaissance est telle que je suis sur le point de me faire sauter la cervelle, de peur d'être pareillement mutilé. Au fond d'interminables et sombres labyrinthes de terreurs étrangères, rôde la némésis noire et sans forme qui me conduit à l'anéantissement. Que le ciel nous pardonne la folie et la morbidité qui nous ont conduits tous deux à un destin si monstrueux. Fatigué des lieux communs d'un monde prosaïque où même les plaisirs de l'amour et de l'aventure deviennent vite fades, Saint John et moi avions suivi avec enthousiasme tous les mouvements esthétiques ou intellectuels qui nous promettaient un répit dans notre ennui sans limite. Les énigmes des symbolistes, les extases des pré-raphaélites furent toutes nôtres en leur temps. Mais chaque nouvelle expérience était vidée trop rapidement de ses attraits et de sa divertissante nouveauté. Seule la plus sombre philosophie des décadents pouvait nous venir en aide. Mais nous n'y trouvions de la force qu'en augmentant progressivement la profondeur et la perversion de nos recherches. Baudelaire et Huysmans ne nous faisaient plus frissonner, jusqu'à ce que finalement il ne nous restât plus que les stimuli encore plus directs d'aventures et d'expériences personnelles contre nature. Ce fut ce besoin d'émotions effrayantes qui nous mena finalement à cette détestable activité que même dans ma présente terreur je ne mentionne qu'avec honte et embarras. Ces hideux confins de l'outrage fait à l'humanité même, l'odieuse pratique du déterrement de cadavres. Je ne puis révéler les détails de nos scandaleuses expéditions, ou détailler même en partie les pires des trophées qui ornaient le musée sans nom que nous avions installé ensemble, seul et sans l'aide d'aucun serviteur. Notre musée était un endroit blasphématoire, impensable, où nous avions assemblé avec le goût d'esthètes névrotiques un univers de terreur. C'était une chambre secrète, loin, très loin dans les profondeurs, où de gigantesques démons ailés, gravés dans le basalte et l'onyx, vomissaient par leurs gueules riantes d'étranges lumières vertes et oranges, et où des tuyaux d'orgue cachés entraînaient en des danses de mort kaléidoscopiques des choses sanglantes, main dans la main, tissées dans de volumineux rideaux noirs. Par ces conduits venaient, au choix, les odeurs les plus en harmonie avec notre humeur, parfois la subtile odeur de lys funéraire, parfois les narcotiques encens des chapelles mortuaires rêvées de rois orientaux. Parfois, combien je frissonne à ce souvenir, la puanteur terrifiante qui vous soulève l'âme d'une tombe ouverte. Le long des murs de cette salle repoussante, les sarcophages d'antiques momies alternaient avec des corps ravissants, parfaitement préparés et entretenus par l'art des taxidermistes, et avec des pierres tombales dérobées dans les plus anciens cimetières du monde. Des niches, çà et là, contenaient des crânes de toutes formes et des têtes préservées à divers stades de décomposition. On pouvait y trouver les crânes chauves et pourrissants de glorieux seigneurs, et la chair et les têtes blondes et dorées d'enfants fraîchement enterrés. Nous avions également des statues et des peintures, toutes représentant des sujets démoniaques et certaines réalisées par Saint John ou moi-même. Un dossier à serrure relié de peau humaine recelait certains croquis inconnus et innommables, dont on disait qu'ils furent dessinés par Goya, qui n'en aurait jamais accepté la paternité. Il y avait des instruments de musique malsains, cordes, cuivres, vents, sur lesquels Saint John et moi-même produisions parfois des dissonances d'une exquise morbidité et d'une démoniaque horreur, tandis que dans une multitude de cabinets incrustés d'ébène, reposait la plus incroyable et inimaginable collection de butins sortis des tombes jamais assemblées par la folie et la perversité humaine. C'est de ce butin en particulier que je ne dois pas parler. Dieu merci, j'ai eu le courage de le détruire avant de songer à me détruire moi-même. Les raids qui nous permettaient de nous procurer nos indicibles trésors étaient toujours des événements de portée artistique. Nous n'étions pas de vulgaires goules, nous opérions seulement dans certaines dispositions d'esprit et dans des conditions précises de paysage, d'environnement, de temps, de saison et de lune. Ces sorties représentaient pour nous la forme la plus exquise d'expression esthétique, et nous portions à leurs moindres détails techniques une attention particulière. Une heure inappropriée, un éclairage mal adapté ou une manipulation maladroite de la boue détrempée auraient presque anéanti ce plaisir extatique qui suivait l'exhumation des trésors sinistres et ricanants enfouis sous la terre. Notre recherche de nouveaux lieux et de conditions excitantes était fiévreuse et insatiable. Saint John était toujours le meneur, et ce fut lui, en fin de compte, qui nous conduisit à cet endroit moqueur et maudit qui précipita notre horrible et inévitable destin. Par quelle fatalité malveillante fûmes-nous attirés vers ce terrible cimetière hollandais? Je pense que c'était la rumeur, la sombre légende de celui qui s'y trouvait enterré depuis 5 siècles, qui fut lui-même une goule en son temps, et qui avait volé un objet puissant dans une sépulture redoutable. Je me souviens de cette scène en ces derniers moments. La pâle lune d'automne sur les tombes, projetant de longues ombres affreuses. Les arbres torturés retombant tristement sur la pelouse à l'abandon et les dalles croulantes. Les vastes légions des chauves-souris étrangement grandes qui voltaient devant la lune. L'antique église couverte de lierre qui tendait un doigt colossal, spectral, vers un ciel livide. Les insectes phosphorescents qui dansaient comme des feux follets sous les ifs à quelque distance. Les odeurs de moisissures, de végétation. Et d'autres choses plus inexplicables qui se mêlaient faiblement au vent de la nuit et provenaient de mers et de marécages lointains. Et pire que tout, le profond et lointain aboiement de quelques gigantesques molosses que nous ne pouvions ni voir ni clairement localiser. En entendant cet aboiement ténu, nous tremblions, nous remémorant des légendes paysannes, car celui que nous cherchions avait été retrouvé des siècles auparavant, en ce même lieu, déchiré et mis en pièces par les griffes et les dents de quelque impensable bête. Je me souviens comment nous avons creusé dans la tombe de la goule à l'aide de nos bêches, et comment nous frissonnions de plaisir en nous voyant nous-mêmes et la tombe sous le regard d'une lune pâle, les ombres horribles, les arbres grotesques, les chauves-souris titanesques, l'antique église, les feux follets dansants, les odeurs malsaines, le vent gémissant doucement et l'étrange aboiement à peine audible qui semblait venir de nulle part et dont nous ne pouvions être certains de l'existence réelle. Alors nous heurtâmes un matériau plus dur que la terre humide et nous sortîmes du sol longtemps inviolé une boîte oblongue pourrissante incrustée de dépôts minéraux. Le bois en était incroyablement épais et résistant, mais si vieux que nous pûmes finalement l'ouvrir et poser nos regards avides sur son contenu. Il restait beaucoup, beaucoup trop, de ce qu'elle contenait malgré les 500 ans écoulés. Le squelette, bien que broyé par endroits par les mâchoires de la chose qui l'avait tué, était resté entier avec une surprenante solidité, et nous exultions en contemplant ce crâne blanc et propre, et ses longues et fortes dents, et ses orbites vides qui jadis avaient brillé d'une fièvre charnelle pareil à la nôtre. Dans le cercueil se trouvait une amulette d'un style curieux et exotique que le dormeur portait apparemment autour du cou. C'était la représentation étrangement stylisée d'un chien ailé accroupi ou d'un sphinx au visage à demi canin, gravé d'une façon exquise à la manière orientale dans un petit morceau de jade vert. L'expression de ses traits était repoussante à l'extrême, évoquant à la fois la mort la bestialité et la malveillance. À la base se trouvait une inscription dans un alphabet que ni Saint John ni moi ne pouvions identifier, et en dessous, comme le sceau de l'artisan qui l'avait façonné, était gravé un crâne grotesque et prodigieux. Dès que nous posâmes les yeux sur cette amulette, nous sûmes que nous devions la posséder, que ce trésor à lui seul était notre récompense pour le viol de cette tombe séculaire. Même si ses formes ne nous avaient pas été familières, nous l'aurions désiré, mais en l'observant de plus près, nous comprîmes qu'elle ne nous était pas étrangère. Étrangère, elle l'était en vérité à toutes les formes d'art et de littérature connues des lecteurs sages et saints d'esprit, mais nous la reconnûmes comme la chose à laquelle faisait allusion l'ouvrage interdit de l'arabe dément Abdul Halazred, le Necronomicon, le terrifiant symbole mystique du culte nécrophage de l'inaccessible Leng en Asie centrale. Nous ne comprenions que trop bien les sinistres commentaires du vieux démonologue arabe, commentaires à ce qu'il écrivait, tirés d'obscures manifestations surnaturelles des âmes de ceux qui ont offensé les morts. Nous emparant de l'objet de jade vert, nous jetâmes un dernier regard à la face blanchie et aux orbites vides de son propriétaire, et refermâmes la tombe comme nous l'avions trouvée. Comme nous nous hâtions de quitter ce lieu monstrueux, l'amulette volée dans la poche de Saint John, nous crûmes voir les chauves-souris s'abattre tout ensemble sur la terre que nous venions juste de retourner, comme pour y chercher une nourriture maudite et malsaine. Mais la lune d'automne brillait d'une lueur faible et pâle, et nous ne pouvions en être certains. Et aussi le lendemain, dans le navire qui nous ramenait chez nous depuis la Hollande, nous eûmes l'impression d'entendre dans le lointain l'aboiement d'un gigantesque chien. Mais le triste vent d'automne soufflait doucement, et nous ne pouvions en être certains. Moins d'une semaine après notre retour en Angleterre, d'étranges événements commencèrent à se produire. Nous vivions comme des reclus, dépourvus d'amis, seuls et sans serviteurs dans les quelques pièces d'un ancien manoir, au milieu d'une lande déserte et dénudée. Il était rare que quiconque vînt frapper à notre porte. Mais maintenant nous étions troublés par ce qui ressemblait à des grattements dans la nuit, non seulement sur les portes, mais aussi les fenêtres, aussi bien en haut qu'en bas. Une fois nous eûmes l'impression, à travers la fenêtre de la bibliothèque éclairée par la lune, d'une forme sombre et de grande taille, et une autre fois nous crûmes entendre tout près un son bourdonnant et claquant. À chacune de ces occasions, nos recherches furent vaines, et nous commencions à attribuer ces phénomènes à notre imagination, qui gardait en mémoire le faible et lointain aboiement que nous avions cru entendre dans le cimetière hollandais. L'amulette de jade reposait maintenant dans une niche de notre musée, et parfois nous allumions devant elle un cierge au parfum étrange. Nous consultions souvent le Necronomicon d'Al-Hazred sur ses propriétés, notamment sur les relations entre les esprits des morts et ce qu'elles représentaient. Et nous étions perturbés par ce que nous découvrions. Alors vint la terreur. Dans la nuit du 24 septembre 1900 et quelques, j'entendis frapper à la porte de ma chambre. Pensant qu'il s'agissait de Saint John, je le priai d'entrer, mais seul un rire perçant me répondit. Il n'y avait personne dans le couloir. Lorsque je tirai Saint John de son sommeil, il avoua sa totale ignorance de l'incident et devint aussi soucieux que moi. Ce fut cette nuit-là que l'aboiement faible et lointain sur la lande devint pour nous une certaine et terrible réalité. 4 jours plus tard, alors que nous étions tous deux dans notre musée secret, nous entendîmes un grattement léger et prudent à la porte unique qui menait à l'escalier secret de la bibliothèque. Notre inquiétude redoubla, car en plus de notre peur de l'inconnu, nous avions toujours eu l'angoisse que notre effroyable collection fût découverte. Éteignant toutes les lumières, nous nous approchâmes de la porte et l'ouvrîmes soudainement. Alors nous sentîmes un inexplicable courant d'air et entendîmes, comme se perdant dans le lointain, une étrange combinaison de bruissements, de ricanements et de chuchotements articulés. Soit nous étions fous en train de rêver, Soit nous étions sains d'esprit, nous n'essayâmes même pas de le savoir. Toujours est-il que nous réalisâmes avec la plus noire des appréhensions que ce chuchotement désincarné était sans l'ombre d'un doute en langue hollandaise. Par la suite, nous vécûmes dans une horreur et une fascination grandissantes. Bien souvent, nous nous raccrochions à l'idée que notre vie faite d'excitations surnaturelles nous rendait tous deux fous. Mais parfois, nous préférions nous voir comme les victimes d'un destin terrible et inéluctable. Les phénomènes étranges étaient maintenant trop nombreux pour être comptés. Notre maison solitaire semblait être devenue vivante par la présence d'un être malveillant dont nous ne pouvions deviner la nature. Et chaque nuit, cet aboiement démoniaque retentissait sur la lande balayée par le vent, toujours plus puissant. Le 29 octobre, nous trouvâmes, dans la terre meuble devant la fenêtre de la bibliothèque, des empreintes de pas totalement impossibles à décrire. Elles étaient aussi déroutantes que les hordes de grandes chauves-souris qui hantaient comme jamais le vieux manoir, en nombre sans cesse croissant. L'horreur atteignit son point culminant le 18 novembre, lorsque Saint John, rentrant à pied de la gare après la tombée de la nuit, fut attrapé par quelque épouvantable chose carnivore et déchiré en lambeaux. J'avais entendu ses hurlements depuis la maison, et je courus jusqu'au terrible endroit d'où il provenait, juste à temps pour entendre un battement d'ailes et voir une vague forme noire se découper sur la lune qui se levait. Mon ami se mourait quand je lui parlais, et il ne put rien dire de cohérent. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était chuchoter. « L'amulette, cette chose maudite !» Puis il s'écroula, masse inerte de chair mutilée. Je l'enterrai à minuit, dans un de nos jardins à l'abandon, et bredouillai devant sa dépouille l'un de ces rituels diaboliques que nous avions aimés de son vivant. Alors que je prononçais la dernière phrase démoniaque, j'entendis le lointain aboiement d'un chien gigantesque. La lune était levée, mais je n'osais pas la regarder. Et quand je vis sur la lande blafarde une grande ombre mal définie glissait de colline en colline, je fermai les yeux et je me jetai à plat ventre sur le sol. Quand je me relevai, tremblant, je ne sais combien de temps plus tard, je titubai jusqu'à la maison, et devant l'amulette de jade vert, me répandis en d'impensables rituels de contrition. Maintenant terrifié à l'idée de vivre seul dans la vieille maison sur la lande, je partis le jour suivant pour Londres, emmenant avec moi l'amulette, après avoir détruit par le feu ou enterré le reste de notre collection blasphématoire. Mais après trois nuits, j'entendis à nouveau l'aboiement, et avant qu'une semaine soit écoulée, je croyais voir devant moi d'étranges yeux chaque fois qu'il faisait nuit. Un soir que je flânais sur le quai Victoria pour prendre enfin un peu l'air, je vis une forme noire passer devant le reflet sur l'eau de l'une des lampes. Un vent plus fort que le vent habituel de la nuit souffla alors, et je sus que je subirais bientôt un sort semblable à celui de Saint John. Le jour suivant, j'enveloppai avec précaution l'amulette de jade vert et voguai vers la Hollande. Quelle pitié j'espérais trouver en rendant la chose à son propriétaire silencieux et endormi, je ne le savais pas, mais je pensais que je devais tenter toute démarche logique que je pouvais envisager. Ce qu'était ce molosse et pourquoi il me poursuivait, je n'en avais qu'une vague idée, mais c'est dans cet ancien cimetière que j'avais entendu l'aboiement pour la première fois, et tous les événements suivants, y compris les dernières paroles de Saint John, semblaient relier cette malédiction au vol de l'amulette. C'est pourquoi je sombrais dans les plus sombres abîmes du désespoir quand, dans une auberge de Rotterdam, je découvris que des voleurs m'avaient dépouillé de cet unique moyen de salut. L'aboiement fut plus fort ce soir-là, et au matin, j'appris qu'un acte abominable avait été commis dans le quartier le plus malfamé de la ville. La population était terrifiée, car un massacre avait été perpétré dans un tripot, massacre qui dépassait les pires crimes du voisinage. Dans un sordide repaire de bandits, une famille entière avait été mise en pièces par une chose inconnue qui n'avait laissé aucune trace. Et les voisins avaient entendu toute la nuit le hurlement lointain, profond, insistant, d'un gigantesque molosse. Alors enfin je me rendis à nouveau dans le cimetière sinistre où une pâle lune d'hiver projetait des ombres hideuses et où des arbres dénudés tombaient paresseusement sur l'herbe gelée et blanchie, et sur les stèles écroulées, et l'église couverte de lierre pointait vers le ciel menaçant un doigt moqueur, et le vent d'hiver soufflait follement depuis des marécages gelés et des mers glaciales. L'aboiement était très lointain maintenant, et s'arrêta complètement quand j'approchai l'ancienne tombe que je violais jadis, chassant une bande de chauves-souris étrangement nombreuses qui volaient par-dessus. Je ne sais pourquoi je revins là, si ce n'est pour prier ou bredouiller de folles supplications à la chose calme et blanche qui reposait là. Mais quelle que soit la raison, j'attaquai le gazon gelé avec un désespoir qui était en partie le mien et en partie celui d'une volonté extérieure à la mienne. Le travail fut bien plus facile que je ne m'y attendais, bien qu'à un moment je fus interrompu par un étrange incident. Un maigre vautour surgit du ciel glacé et se mit à donner frénétiquement des coups de bec dans la terre, jusqu'à ce que je le tue d'un coup de bêche. Finalement, je trouvai la boîte oblongue et pourrie, et en retirai le couvercle vermoulu. Ce fut là mon dernier acte raisonnable. Car tapis dans ce cercueil centenaire, entouré par une armée cauchemardesque d'énormes et puissantes chauves-souris endormies, se trouvait le squelette que mon ami et moi avions volé, mais pas propre et calme comme nous l'avions vu, mais recouvert de sang séché et de lambeaux de chair et de cheveux qui n'étaient pas les siens, et il me regardait de ses orbites phosphorescentes, et ses crocs acérés et sanguinolents grimaçaient un sourire moqueur à la perspective de mon inéluctable destin. Et lorsque jaillit de ses mâchoires ricanantes un aboiement sardonique comme celui d'un gigantesque molosse, et quand je vis qu'il tenait dans ses griffes souillées et sanguinolentes la fatale amulette de jade vert perdue, j'ai tout simplement hurlé et je me suis enfui comme un fou, mes cris se changeant bientôt en éclats de rire hystériques. La folie rôde dans le vent nocturne. Des griffes et des crocs aiguisés sur des corps pendant des siècles, apportant la mort, chevauchant une bacchanale de chauves-souris, depuis les ruines envahies par la nuit des temples enfouis de Bélial. Maintenant, alors que l'aboiement de cette monstruosité morte dépourvue de chair devient plus puissante à chaque instant, et que le faible bourdonnement et le claquement de ses maudites ailes arachnéennes se rapprochent, je vais chercher avec mon revolver l'oubli qui est mon dernier refuge face à l'innommable et à l'indicible.